La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Nous avons une heure à passer ensemble dans notre bulle d'optimisme. On va découvrir des femmes, des hommes qui ont l'audace d'entreprendre et même quand c'est impossible, eh bien c'est simple, à La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1 et aujourd'hui on va parler du jeu vidéo.
Oui, parce que ça fait partie de ces secteurs qui se portent très bien, c'est simple, il n'y a jamais eu autant de joueurs et de joueuses qu'en ce moment. Bah alors, comment ça s'explique? Sur quoi joue-t-on en France? Quels sont les jeux les plus porteurs? Et puis surtout, est-ce qu'il y aura assez de jeux et de consoles en magasin pour répondre à la demande de Noël? On parle de tout cela avec le directeur général du syndicat du jeu vidéo jusqu'à 14h.
À la une, en effet, donc les jeux vidéo et parfois ces jeux peuvent être ludiques et nous apprendre les maths ou l'histoire. C'est ce que promet en tout cas Powers. Ce sera la start-up à découvrir d'ici quelques minutes.
Alors là, ça fait partie des plus gros succès du jeu vidéo Made in France. Les lapins crétins, même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, je suis sûr que vous les connaissez en dessin animé ou autre. Une vraie success story lancée en 2006 qui sera notre saga du jour.
Nous accueillerons ensuite notre trophée de l'avenir Europe 1 La France bouge. Et si vous jouiez à cache-cache sur console ou sur votre ordinateur, c'est ce que promet Gros Chevaux qui a invoqué le jeu Unspotable. Alors que dit le pitch? Rendez-vous à 13h45.
Enfin, demain au travail, travailler comme un freelance tout en ayant la sécurité d'un CDI avec en prime un management très horizontal. Ça vous fait rêver tout ça? On va appeler la personne qui essaye de mettre ça en place en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans La France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr.
Europe 1.
Allez, on sort notre joystick, on sort notre petite manette ou on se met devant la télé ou devant nos PC.
On dit encore joystick?
Bah, je pense, oui.
Ah, on va voir ça avec notre invité, je sais pas.
Vous me ramenez dans les bas-fonds des années 80, c'est
oui,
ça.
On
en
l'est
tout
tous,
cas,
hein.
Comme chaque jour, on est ravis de vous retrouver et de vous embarquer dans notre parenthèse de positivité avec cette pause jeux vidéo.
Bonjour Nicolas Vignol.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, hein, autrement dit, c'est le syndicat des jeux vidéo en France. Et si nous avons voulu être avec vous aujourd'hui dans La France bouge, c'est parce que on l'a vu, hein, le secteur est en pleine forme. On peut le dire, Nicolas Vignol, il n'y a jamais eu autant de joueurs et de joueuses en ce moment.
C'est vrai. On rencontre dans la période un peu morose que tous les Français vivent, on rencontre à l'inverse un succès incroyable dans le jeu vidéo aussi parce que dans la période, ben c'est un média qui est facilement accessible. À tous, chez soi, en déplacement, etc. Et donc, c'est vrai, on a des chiffres incroyables en 2020,
allez,
on a des chiffres incroyables en 2021.
Mais on y va, déroulez les chiffres.
Avec un vrai succès aussi français, hein, il faut le dire, dans cette industrie mondiale. Donc, il faut aussi saluer les industries qui marchent bien et qui marchent bien sur notre territoire. La France s'en tire super bien et les Français jouent beaucoup.
Mais elle a raison, Elisabeth, déroulons les chiffres parce qu'ils sont assez impressionnants. Moi, j'en reviens pas. Il paraît que 7 Français sur 10 jouent au moins une fois par mois aux jeux vidéo. Vous avez deux exemples. Elisabeth et moi, on y joue
jamais.
Alors, évidemment, ça c'est ce chiffre, vraiment ce socle minimal, hein. Il faut le prendre comme on joue à un jeu très casual, comme on le dit, c'est-à-dire très classique, très basique, le temps d'un trajet en bus, le temps d'un trajet en métro, et ben ça c'est compté comme dans ces 73% des Français qui en 2021 jouent aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment le socle minimal. Ce qui est encore plus intéressant en 2021, c'est que ceux qui sont rentrés dans le jeu vidéo, qui ont commencé à vraiment s'engager en 2020 au moment du confinement, bah, on les a gardés en 2021 et ils jouent encore plus. Et c'est ce second chiffre sur lequel j'attire votre attention, qui est le 58% des Français qui jouent régulièrement aux jeux vidéo.
Régulièrement, c'est-à-dire quoi, une fois par semaine?
Ouais, c'est ça, au moins une fois par semaine. Et là, on commence à avoir quelqu'un qui, ou quelqu'une qui s'intéresse vraiment, vraiment aux jeux vidéo. Et puis après, il y a des aficionados, évidemment, qui y passent beaucoup plus de temps.
Donc avec ces nouveaux entrants, j'ai envie de dire, depuis le premier confinement, ça veut dire qu'il y a une sorte de nouveau cycle pour le jeu vidéo?
Oui, clairement. Bah, en fait, il y a toute cette génération, on en parlera peut-être, mais de nouveaux parents de 35, 40, 45 ans, qui sont en fait ces parents qui ont eu une première culture du jeu vidéo, hein, quand ils avaient 18, 20, 22 ans, et même quand ils étaient dans leurs études. Hein, souvent, c'est des schémas qu'on retrouve. Enfin, c'est un peu mon cas personnel. Et quand on devient parent, bah, en fait, on constate, et c'est ce qui ressort aussi très fortement de notre étude, que chez les enfants, chez les adolescents, ce média, il n'est pas seulement populaire. Il est de très loin le premier média devant tous les autres.
Mais malgré tout, c'est une surprise parce qu'on se serait vu il y a un an, vous nous avez dit, bon allez, c'est lié au confinement, une fois qu'on va tous pouvoir ressortir, on re-range la console dans le fin fond du placard, puis ben, on espère qu'elle ressortira pas parce que ça voudrait dire qu'il y a un nouveau confinement. Là, ils sont restés. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une passion nouvelle. J'aimais bien ce qu'utilisait Elisabeth comme formulation. Nouveau cycle. Il y a quand même un redémarrage, un nouveau souffle.
Oui, c'est clair. Non, c'est une très bonne expression. En fait, on a pu penser que 2020, c'était une parenthèse. Que le jeu vidéo avait fait un bond qui était lié au confinement. C'est pas seulement l'antidote à l'isolement et au confinement. Hein. Le jeu vidéo, c'est une passion qui s'installe dans la durée et qui maintenant atteint un succès absolument spectaculaire dans la durée. Donc on se rend compte en 2021 que c'était pas une parenthèse. On a ouvert sans doute encore une nouvelle ère pour le jeu vidéo où il y a 58% des Français qui jouent régulièrement. Il y a 98% des enfants de plus de 10 ans jusqu'à 18 ans qui nous disent « c'est mon média préféré ». Donc on est dans des proportions inimaginables.
Ça détrône tout, hein, finalement.
Ça détrône beaucoup chez les plus jeunes. Et surtout, ce qui est super important, c'est que ce qui reste de 2019-2020 et qui s'installe en 2021, qui ouvre un nouveau cycle, c'est vraiment cette dimension sociale du jeu vidéo.
Alors moi,
on
ça,
se
je
connecte
pas.
Pour jouer avec
mais
les
moi,
autres.
Je comprends pas, parce que pour moi, le jeu vidéo, pardonnez-moi de cette question, on est seul devant son écran. Et on
aussi,
est seul avec soi-même.
Ouais.
Non, mais en quoi c'est social? C'est-à-dire que les jeunes se réunissent chez les uns, chez les autres, ils se mettent à.
Et puis on joue chacun à la maison
5, 6,
en lien avec ses petits copains chez eux aussi.
C'est les deux. Alors effectivement, je ne veux pas laisser croire que tout le monde joue en multijoueur ou en connecté. Hein. Ce serait faux par rapport à la proportion de ce qui est joué. Hein. Et ceux qui nous écoutent, et notamment les grands fans de jeux d'aventure, en quête solo, etc., qui y passent des heures, m'en voudraient de dire ça. Donc il y a aussi le joueur un peu solitaire qui revendique ça. Mais en tout cas, d'un point de vue tendance, c'est vrai que, et en plus, c'est encore plus vrai chez les plus jeunes, c'est ça qui est hyper intéressant et qui est contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend sur le jeu vidéo. Plus on est jeune, plus on cherche à jouer au jeu vidéo pour jouer avec ses copains, jouer avec sa famille, jouer connecté à d'autres. Les proportions dans notre étude 2021, en fait, ça va à crescendo. C'est-à-dire 65% des gamins de 10 à 18 ans, ils jouent d'abord pour jouer avec leurs amis.
Donc ça commence vers 10 ans ?
Ouais, alors. Généralement, il y a des jeux qui... En fait, vous savez, il y a une classification des jeux très précise. Hein. Quand vous achetez un jeu et que vous êtes parent, vous avez un logo PEGI, ça s'appelle la classification des jeux vidéo. Ça commence à moins de 7 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Et même, je me suis trompé, excusez-moi, il y a un logo moins de 3 ans. Donc 3, 7, 12, 16, 18, vous avez ce renseignement. Et vous avez même parfois des petits descripteurs qui vous disent un petit peu plus du contenu du jeu, qui vous alertent si jamais il y a des choses dans le contenu qui est un peu dangereux. Sur tous les jeux si disponibles.
On utilise le mot joueur quasiment depuis le début de l'émission, mais un joueur sur deux en France est une femme. Et ça aussi, c'est quand même une évolution un peu plus longue de ces dernières années. Mais c'est quand même assez flagrant de ce marché français du jeu vidéo.
Ouais, il n'y a pas de raison quand on dit que le jeu vidéo est un carton absolu dans la société, il n'y a pas de raison que les filles, les femmes soient évidemment en dehors de cette passion qui dépasse tout.
Les femmes ça n'a pas toujours été comme ça, ça a quand même progressé ces dernières années, notamment à l'aune de la progression des jeux sur mobile.
Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est vrai que les femmes, et notamment, il y a des profils de femmes seniors, plus de 55, plus de 60, qui jouent beaucoup sur mobile. Hein, on a remarqué des femmes de...
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Quand vous dites sur mobile, ça veut dire que les jeux vidéo, on joue sur télévision, smartphone, sur quoi d'autre ?
Sur tout.
Dès qu'il y a un écran, jeu vidéo compatible.
En fait, je vais vous expliquer. Le jeu vidéo a une force. Il a traversé par rapport à d'autres industries. En fait, il a su se renouveler de manière hyper rapide. Ceux qui nous écoutent peut-être et ceux qui ne jouent pas pourraient ne pas le comprendre, mais c'est passionnant. En 2000, il a dû affronter le jeu vidéo, le fait qu'Internet faisait irruption et il fallait être connecté à Internet. Donc, c'est l'ère de la connectivité entre 2000 et 2010. En 2010, les vendeurs de jeux vidéo et les éditeurs notamment se sont dit « vendre un jeu vidéo, c'est bien, mais en fait, ma clientèle veut encore un peu plus, il faut du service avec ce jeu vidéo ». Et ça a allongé la durée de vie d'un jeu. Donc vous aviez un jeu, et puis en fait, au fur et à mesure, au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi, il y avait du service additionnel dans le jeu. Vous pouviez activer des choses, vous pouviez acheter des nouvelles options, etc. Ça, c'est 2010. Et 2020, c'est vraiment l'ère du support, de l'accès. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer sur tous les supports. C'est ça la vraie révolution de 2020-2021. On joue sur son mobile dans le bus, on joue chez soi sur sa console, on joue sur sa console en mobilité, on joue chez le PC de papy le week-end et on peut poursuivre. Et on peut poursuivre et on poursuit la même partie. Donc ça, c'est cool.
On dit joystick ou pas ? J'y tire.
Moi, j'aime bien Manuel Dutheil, donc je peux pas.
Sympa.
Mais c'est vrai que joystick.
C'est bon, on peut dire que je suis un loser.
C'est un peu daté.
Allez, on a
un pad. Ouais.
C'est un peu daté. On va retenir ça. Allez, on n'a jamais autant joué aux jeux vidéo en ce moment. Nicolas Vignol, vous êtes notre grand patron du jour et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bon, si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous avez compris que je suis un petit peu dépassé, mais malgré tout, j'aime bien le jeu vidéo et on met ça à l'honneur. C'est un secteur qui cartonne, il n'y a pas d'autre mot, et on en parle avec Nicolas Vignol, qui est le directeur général du CEL. C'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Bon, on va essayer de résumer tout ça en disant le syndicat des jeux vidéo, on comprendra mieux.
Alors vous savez, Emmanuel, qu'on peut aussi jouer à un jeu vidéo pour apprendre des choses, pour s'enrichir de connaissances.
Ça, à mon époque, ça n'existait pas, moi, c'était Mario Bros.
Bonjour Emmanuel Freund.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Powerz, c'est tout récent. Vous vous êtes lancé pendant le premier confinement. Et grâce à votre jeu, on joue en apprenant. Ça fonctionne comment ?
Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne comme un jeu qui devient utile et là où on apprend des choses. En fait, ça a commencé, c'est une sorte de bébé du Covid. Ça a commencé là où il fallait faire l'école à la maison. Et donc, évidemment, j'essayais de trouver des apps, des moyens d'attirer les enfants, de les intéresser avec une tablette, un écran, sur des applications. Là, on apprenait les maths, là, on apprenait la géographie ou le français. Et ils étaient intéressés 20 minutes, 25 minutes, mais ils arrêtaient. Mais de façon complètement paradoxale, dès qu'on les mettait devant un dessin animé ou dès qu'on les mettait devant un jeu vidéo, je suis un ancien joueur de jeux vidéo comme Mario Kart, comme des Pokémon, et bien ils étaient capables de rester 3 heures devant. Et quand on les appelait à table, ils ne venaient pas. Et donc l'idée, c'était pourquoi on n'aurait pas un jeu là où ils apprennent la géographie, les mathématiques et toutes ces choses-là, mais quand on les appelle à table, ils ne viennent pas. Et qu'il faut appeler plusieurs fois.
Et ça, vous l'avez mis en place, vous l'avez mis au point et vous avez trouvé la solution.
Alors, en fait, elle n'était pas si compliquée que ça. D'abord, il y avait un constat assez étonnant, c'est que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait plein de petites apps, il y avait plein de petites choses pour apprendre les maths, mais en fait, le focus, c'était d'abord pédagogique. Ce n'était pas un vrai jeu. Et donc la question, c'est pourquoi il n'existe pas un vrai jeu, comme tous les jeux qu'on voit, il y en a plein, avec des millions investis dedans pour faire quelque chose de très ambitieux, là où on apprend des choses. Donc on est allé voir d'abord des professionnels de l'éducation, on est allé voir Bayard, on est allé voir Hachette, pour leur demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui rend ça impossible? Pourquoi ça n'existe pas? Vous faites plein de cahiers de vacances, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Et on est allé voir des professionnels du jeu vidéo cette fois, on est allé voir des Ubisoft, Arkane, enfin des grands studios français, et on leur a demandé, est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a une façon pour... une raison pour laquelle ça n'existe pas. Et est-ce que ça existe quelque part dans le monde ? La réponse était non, et ils ne savaient pas pourquoi. Donc on a décidé de le faire, on a fait un test, et on a lancé une première version en février, et on s'est aperçu que tout d'un coup, on avait 40 000 personnes, 40 000 enfants.
40 000 enfants ?
Mais sans pub, sans rien.
Extraordinaire.
40 000 enfants qui venaient, qui jouaient sur le jeu directement, qui étaient très contents d'apprendre des choses. Derrière, et qui restait.
Mais c'est quoi les choses? On apprend quoi?
Je voulais dire la même chose.
On apprend quoi concrètement? En fait, on n'a pas inventé la poudre là-dessus. On a demandé à Hachette et à Bayard qu'est-ce qu'on devrait apprendre en primaire, par exemple, pour des enfants de 6 à 12 ans, typiquement. Ils nous ont donné la liste de ce qu'on devait apprendre. Donc, on fait des maths, on fait du calcul mental, on fait de la géographie, on fait un peu aussi de mythologie, on va faire un peu de méditation, on va apprendre des langues, on va apprendre de l'italien, de l'anglais, on va apprendre des mots de vocabulaire. On va apprendre un nombre de choses. En fait, le but, c'est qu'à terme, on puisse apprendre tout.
Mais
tout
c'est
ce qu'on
pas
veut et que l'enfant lui-même va aller vers ses passions.
C'est pas un palliatif, ça vient en plus pour réviser les cours ou pour avoir la petite notion en plus de ce que l'éducation nationale nous apporte, ou ça peut quasi remplacer?
Alors, ça, le but est absolument pas de remplacer l'école. Évidemment, il y a tout un intérêt, on va en reparler, j'espère, de comment on peut faire évoluer l'école, comment on peut aider, comment de toute façon, avec le Covid, on a vu que l'école devait aussi se transformer d'une certaine façon et qu'il faut utiliser autre chose que Teams ou que des applications pour faire l'école à la maison. Mais là, le but n'est pas de remplacer l'école. On va aider pour les mathématiques, par exemple, mais on va utiliser des méthodes aussi un peu différentes. La géographie, je veux dire, l'école souvent n'a pas le temps d'inculquer la géographie en primaire, parce qu'il faut plus se concentrer sur le français, sur apprendre à lire, sur les mathématiques. Et donc, effectivement, savoir où sont les continents, savoir où est la France, quels sont les pays limitrophes, tout ça, on peut l'apprendre très, très facilement en s'amusant. Les langues, c'est pareil. Les langues, c'est de l'habitude, en fait.
Alors, vous êtes disponible sur quel support? Là, si, pour nos auditeurs qui ont envie d'essayer votre jeu, j'ai envie de dire votre application, mais c'est une appli, c'est quoi?
Alors, on a fait donc, cette première démonstration des capacités de ce jeu-là en sortant une application sur tablette, sur iPad.
Donc, ou smartphone?
iPad ou smartphone, oui, exactement.
C'est pareil,
c'est
ouais.
iOS. Et aussi sur ordinateur et PC. Là, pour l'instant, surtout, on est ce qu'on appelle on est en développement.
En version bêta.
Exactement, en version bêta. Avec cette idée de dire, faire un jeu éducatif, ça ne peut pas être la responsabilité d'une seule entreprise. C'est quelque chose qu'on veut ambitieux. Donc, on veut attirer les enfants, les parents, les professeurs, tous les gens qui ont envie de réfléchir.
Une sorte de Wikipédia du jeu vidéo, quoi.
Exactement.
Chacun y participe.
Exactement.
Mais du coup, ça veut dire que c'est gratuit, cette histoire?
Ah oui, c'est complètement gratuit. Ça, c'est une valeur de base. Ça restera gratuit.
Mais alors,
il faut que ça soit l'éducation doit être accessible à tout le monde. En fait, c'est une des inventions du jeu vidéo. C'est l'avantage du jeu vidéo, c'est que c'est tellement ça devient tellement utilisable par des millions de gens finalement que c'est un peu comme si on avait une sorte de fête foraine géante et que tous les manèges étaient gratuits, mais que de temps en temps, il y a des stands à Barbapapa pour ceux qui veulent. Et on peut participer à tous les manèges gratuitement, mais si on a envie, comme on reste toute l'après-midi, on peut acheter des Barbapapa.
Mais vous, alors, comment vous mettez quoi votre stand de Barbapapa alors pour gagner votre...
Pour l'instant, on a un
c'est
modèle
un peu vertueux. C'est un thème de multiplication
de 9.
Non. On l'a revu ce matin, en plus.
Pas du tout, justement. Sur le principe de l'éducation, tout doit être accessible gratuitement. Ici, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on propose aux gens, un peu comme Wikipédia, de participer s'ils ont envie d'aider, selon leurs moyens. Donc, parce qu'on paye ce qu'on veut pour l'éducation. Et puis aussi, dans le jeu, on va donner des cosmétiques. Au bout de certains moments, ces cosmétiques peuvent être achetés, par exemple, un nouveau chapeau pour son personnage ou quelque chose comme ça, qui ne change
c'est quoi,
strictement rien au jeu.
Les cosmétiques dans le jeu vidéo ?
Les cosmétiques,
c'est des accessoires ?
Exactement.
D'accord.
C'est pour habiller son personnage.
Et c'est accessoire, alors.
Nicolas Vignol, je rappelle que vous êtes le directeur général du syndicat des jeux vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle l'EdTech, hein, la technologie, l'éducation par la technologie. C'est un des pans de devenir pour le jeu vidéo.
Oui, il y a plein d'usages du jeu vidéo qui débordent le jeu vidéo, hein, si je puis te dire. Donc, il y a beaucoup aussi d'entreprises très traditionnelles, hein, qui font ce qu'on appelle la gamification. Ça va des RH à la manière de mobiliser son interne, son équipe, hein, tous les auditeurs qui m'entendent le connaissent. Hein. Alors, il y a un petit peu de gadgets aussi, hein, parfois, autour du jeu vidéo. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le projet que porte Emmanuel et PowerZ, c'est une EdTech qui joue sur le jeu vidéo, mais effectivement, comme il a dit, en fait, c'est un jeu vidéo à la base de qualité. Et en fait, ça, c'est très important parce qu'en fait, quand on attire des enfants dans un projet éducatif par le jeu vidéo, si le jeu vidéo, passez-moi l'expression, il est tout pourri, comme ils le disent eux-mêmes, ils vont vite décrocher. Là, il est beau, il est esthétiquement bien réussi. Les mécaniques de jeu, je n'ai pas joué suffisamment, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc là, on a des chances de leur faire apprendre des choses par le jeu vidéo. Donc, je trouve ça génial.
Moi, il y a juste quelque chose qui me pose souci avec Powers, c'est le modèle économique. Je comprends pas comment ça peut rester gratuit tout le temps.
En fait, ça peut. Les 6 jeux qui gagnent le plus d'argent en ce moment sont des jeux gratuits. C'est-à-dire, si on regarde Fortnite, League of Legends, tous ces jeux-là, enfin.
Bah après, on est quand même souvent obligé d'acheter beaucoup de boosters quand même dans ce jeu. Si on veut faire partie des meilleurs mondiaux.
Alors, non, pas du tout, justement. Si on veut faire partie des meilleurs mondiaux, on n'est pas du tout obligé d'acheter le moindre booster. Ça, c'était
booster,
il y a 5 ans.
Ah, ben bah voilà. C'est des petits éléments qui nous permettent d'accélérer, d'aller plus vite, d'être plus performant.
Exactement. Le jeu vidéo a compris très rapidement que plutôt que de payer pour s'amuser, c'est parce que les gens s'amusaient qu'ils allaient dépenser. Tout bêtement. Et donc, un jeu qui est capable de garder les gens un moment assez important dans leur vie, plusieurs week-ends, plusieurs... Et bien, dans ce cas-là, effectivement, ils ont envie, dans ce jeu, de dépenser un peu d'argent.
Et vous nous avez donné envie d'essayer Powers. Merci à vous, Emmanuel Freund.
Merci
vous êtes
beaucoup.
Le fondateur de Powers, ces jeux vidéo qui nous permettent d'apprendre l'histoire, la géographie, encore le français.
Moi aussi. Même pour nous, on va aller réviser le programme. On va finir l'émission quand même, mais après, on va aller réviser le programme de primaire. Et Nicolas Vignol, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur général du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
J'espère que vous êtes comme nous avec Elisabeth. On passe un excellent moment encore aujourd'hui pour mettre en avant tous ces secteurs, un Made in France qui cartonne. Et en l'occurrence aujourd'hui, le secteur du jeu vidéo, secteur qui va très très bien. Je vais vous redonner quand même cette information. Il n'y a jamais eu autant de joueurs et de joueuses qu'en ce moment. Et on parle de tout cela avec Nicolas Vignol, qui est le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Alors je crois qu'il y a une petite particularité française, parce que tout à l'heure, Elisabeth vous disait, mais sur quoi on joue en France? Vous voyez, sur tout, sur téléphone portable, hein, mais on joue quand même plus que les autres sur console. Et
ouais,
ça, c'est un truc un peu made in France.
Ouais, c'est une petite singularité française. On est très attaché à la console. Quand on regarde les Allemands, les Anglais, hein, les marchés les plus proches de nous, les Anglais, ils jouent un petit peu plus sur des jeux déjà très en ligne, très dématérialisés, donc sur tablette, sur PC, etc. Les Allemands sont clairement très PC, par exemple, pour donner une illustration. Et nous, les Français, à 57%, quand on prend les consoles en mobilité, comme on dit dans notre jargon, mais les Français voient bien de quoi on parle, ou les consoles branchées à la télé dans le salon, et bien tout ça, ça fait 57% de la manière dont on joue aux jeux vidéo en France. Donc ça reste quand même très, très, très fort, même si c'est vrai, le mobile... ça va grandissant parce que les mobiles ont des capacités de plus en plus sympas et donc on peut jouer à des jeux de plus en plus sympas.
Alors vous parlez de jeux depuis tout à l'heure, si on pouvait rentrer un petit peu dans le détail,
oui.
On joue à quoi en ce moment ?
Alors, le top 3 en fait en France, mais il faut tenir compte vraiment du fait qu'on peut jouer sur tous les supports, donc c'est ça aussi qui casse un peu aussi les intuitions qu'on peut avoir. Le premier jeu, le best-seller, c'est vraiment le jeu de plateau en fait, transformé en jeu vidéo, ça reste encore ça. Donc des jeux stratégie Ensuite, quand on joue sur console ou sur PC, les grosses zones de jeu, c'est les jeux de sport. Il y a un opus d'un jeu de foot récurrent depuis 22 ans maintenant qui sort.
Qui s'appelle FIFA, comme ça, c'est pas vous qui l'aurez dit.
Absolu à chaque fois que ça sort. Il faut le dire et le redire, mais je suis pas là pour faire leur pub. C'est un carton pourquoi ? Parce que la manière dont on filme le jeu à l'intérieur est révolutionnaire. On dit souvent peu que le jeu vidéo est en avance technologique sur tous les autres médias. La manière dont on filme à la télé les retransmissions de foot, par exemple, ça vient de la manière dont FIFA notamment et EA a développé une capacité à montrer les jeux, le sport et le foot en particulier dans les jeux à partir de FIFA 98 qui a inspiré la télé. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Donc vous voyez, il y a une passion pour le jeu de sport, le jeu d'aventure, beaucoup de jeux d'aventure là, qui vont sortir aussi au moment de Noël.
Vous parlez de la façon dont on filme les matchs de foot qui sont un peu, c'est eux qui ont lancé, qui ont été précurseurs, mais le jeu vidéo, on ne sait pas non plus tous, mais ça pèse beaucoup plus que le cinéma ou la musique réunie.
Oui, alors nous, on est toujours hyper respectueux des autres industries créatives et culturelles, d'autant que le jeu vidéo, en fait, c'est ce qui est passionnant dans le jeu vidéo, c'est que ça croise tous ces arts, en fait. Vous allez trouver de la musique, vous allez trouver des arts graphiques, vous allez trouver du cinéma, parce qu'il y a des scènes de cinématique, comme on dit dans les jeux vidéo, vous ne jouez pas tout le temps. À un moment, dans les jeux d'aventure, vous avez 5 minutes de mise en scène qui vous font rentrer dans l'intrigue.
Malgré tout, maintenant, les grands jeux vidéo sont construits quasiment comme des films, et avec des budgets. Là aussi, c'est nouveau. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des paris qui sont faits.
Très important de rappeler ça. Un jeu vidéo aujourd'hui, en moyenne, on a un triple A, c'est-à-dire les blockbusters du cinéma. Si on compare aux jeux vidéo, ça s'appelle un triple A, voire maintenant, il y a même des quadruple A. C'est des jeux qu'on met à peu près 150 à 200 millions de dollars.
C'est le budget d'un
à les produire.
Très, très, très gros
pour
film.
Vous situer, les triple A mondiaux, c'est ça les budgets. Et sans compter les budgets marketing et commerciaux qui sont associés ensuite pour leur lancement. Donc, c'est des années d'investissement. Et donc après, c'est vrai que c'est pour ça que pendant 5-6 ans, on en fait des succès, on en fait des opus qui se répètent, etc.
Alors, Nicolas Vignol, il y a Noël qui approche avec son lot d'achats que le Père Noël va aller faire pour déposer au pied du sapin. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de stock, aussi bien de jeux vidéo que de consoles?
Ouais, le Père Noël, je veux rassurer tous ceux qui nous écoutent, le Père Noël aura bien dans sa hotte des jeux vidéo et des consoles.
Vraiment ? Parce que la question d'Elisabeth est importante, parce que l'année dernière, il y avait les nouvelles générations de consoles qui arrivaient et les gens n'ont pas été servis, et pas que pour un phénomène de rareté organisé par les fabricants de consoles, parce qu'ils sont aussi très très forts, il n'y a pas que le luxe qui sait faire ça. Mais là, véritablement, cette année, on va y arriver, d'après vous ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la console à Noël. Il n'y a pas que les consoles de nouvelle génération. Il y a des consoles qui fonctionnent super bien encore chez les Français, parce qu'on cite beaucoup, et je vais les dire à l'antenne, les Xbox Series S de Microsoft, les nouvelles générations de consoles, la PlayStation 5. Mais le gros du parc des consoles en France, c'est de la PS4, c'est de la PS3 encore, c'est de la Nintendo Switch. C'est des consoles que tous les Français ont. Et celles-là, elles vont être en nombre à Noël. Et puis côté jeu, il y a plein de jeux passionnants qui vont sortir au moment de Noël.
Alors Nicolas Vignol, nous on aime bien chaque jour dans l'émission revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui traverse les années, qui sont français, qui sont toujours là et nous en sommes fiers. Aujourd'hui dans cette émission consacrée aux jeux vidéo, gros plan sur des petits personnages. Ils ont 15 ans et alors rien ne les prédestinait à devenir culte. À l'origine c'est un jeu vidéo qui s'est transformé en film à succès. Vous avez deviné ce que c'était ?
Je crois que c'est les lapins crétins qui ont marqué toute une génération et qui continuent de marquer toute une génération. On ne peut pas oublier leurs cris, leur voix justement si reconnaissables. Et c'est notre saga du jour, racontée par notre gameuse à nous, Charlotte Barrican.
Europe 1. La France bouge, la saga.
En 2006, naissent des personnages de jeux vidéo que l'on reconnaît grâce à leurs cris. Ce cri entêtant, c'est celui des lapins crétins, tout droit sorti de l'imagination du studio montpelliérain de jeux vidéo Ubisoft. Ces personnages bizarres et déjantés apparaissent pour la première fois dans Rayman contre les lapins crétins. Rayman, c'est une autre franchise d'Ubisoft, un carton de l'entreprise dans les années 90 qui se fait voler la vedette par ses lapins. Loïc Gounon, directeur de la marque dans les studios de développement d'Ubisoft, qui a participé à la création des lapins crétins.
La manière dont sont arrivés les lapins, c'est qu'on crée des nouveaux ennemis, des nouvelles créatures qui allaient peupler l'univers de de Rayman. Et en fait, en créant des nouveaux personnages, donc il y avait des araignées, différentes créatures, à un moment est né un de ces animaux, donc c'était des lapins. Et en fait, ils avaient une forme un peu particulière et ils étaient dressés sur les pattes. Donc c'était un peu original pour un lapin. Et donc il y a en fait un premier personnage qui a été dessiné, puis ensuite modélisé et mis dans le moteur du jeu à l'époque, et donc c'est comme ça finalement qu'est né ce personnage comme un des ennemis de Rayman, mais en fait très très rapidement on s'est rendu compte qu'il avait quelque chose de particulier, qui faisait rire les gens devant les écrans, qui avait un potentiel.
Trois jeux en tout pour Rayman et les lapins jusqu'en 2009, où ils prennent plus de place et deviennent une franchise, produits dérivés, nouveaux jeux sur Wii, Nintendo DS ou encore mobile, et plus récemment sur la Switch, mais aussi un dessin animé et une série. Grâce à son originalité, le jeu a été un succès international. Les lapins se sont imposés comme des personnages mythiques, notamment grâce à leur physique.
Il y avait la couleur des yeux qui changeait. Les yeux étaient bleus du lapin quand il était dans un état relativement calme. Et quand en fait il pétait les plombs, ses yeux devenaient rouges et il avait son fameux cri qui est devenu iconique, le bas du lapin, qui quand il n'est pas à l'aise avec une situation ou qu'il n'est pas content, il déclenche son bas. Et c'est en fait une signature qui est arrivée très très tôt du personnage et qui n'existait pas ailleurs dans le marché du divertissement et qui a vraiment rendu le personnage unique, à la fois son humour, son fameux cri, ses situations décalées. C'est ce qui a créé un peu le cocktail d'humour et qui est toujours là aujourd'hui.
Et comment parler des lapins crétins sans évoquer leurs bêtises? Ils sont complètement fous, n'en font qu'à leur tête et de plus, ils ont un langage bien à eux.
Les lapins s'exprime sur les choses, mais pas avec des mots d'être humain. Et c'est ce qui amène en fait ce décalage et aussi cet humour. Et donc la manière dont c'est né d'ailleurs, la petite anecdote, c'est un de nos ingénieurs au studio, qui a un petit nom qui s'appelle Popo, Johan Perrier, et c'est lui qui avait un ingénieur qui avait prêté sa voix pour mettre, on va dire, en version maquette sa voix sur le personnage. C'est quelqu'un qui faisait un peu des bruits dans les open space quand on travaillait, qui faisait des bras, bras. Et donc sa voix a été mise en maquette, ça a fait rire tout le monde. Et en fait, c'est resté. Donc après, d'autres personnes dont c'est le métier ont aussi prêté leur voix pour la série télé. Mais c'est vraiment la voix des lapins est née un peu comme ça, une sorte de mélange un peu yaourt humoristique. Et ça fait partie intégrante du personnage. Et donc pour l'instant, en tout cas jusqu'à maintenant, les lapins n'ont jamais parlé comme des êtres humains. Mais vraiment, ils ont leur propre langage à eux.
Ubisoft, la maison mère des lapins, a collaboré en 2013 avec le parc du Futuroscope pour créer une attraction dédiée avec la technologie 5D, la machine à voyager dans le temps, qui a reçu le prix de la meilleure attraction du monde. En 15 ans, tous les jeux des lapins crétins sont vendus à des millions d'exemplaires et médaille d'or pour celui avec Mario, Kingdom Battle. Le jeu sorti en 2017 a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires et un deuxième volet est prévu pour 2022.
C'était la saga du jour de Charlotte Barrican. On est toujours avec Nicolas Vignol, qui est le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le syndicat des jeux vidéo. Alors là, on vient de voir un très bel exemple d'une franchise made in France avec les lapins crétins, ça cartonne. Justement, les Français sont très très puissants dans le jeu vidéo. On fait partie des leaders mondiaux. Ubisoft, par exemple, fait partie des leaders mondiaux. Comment expliquer, là encore, le fait que l'on soit si fort et toujours dans ce secteur ?
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment dans le peloton de tête. Hein. La France, on est vraiment bon et je pense qu'on peut être encore plus meilleur, je dirais, dans les années à venir si on perçoit d'ailleurs le jeu vidéo comme une industrie d'avenir, une industrie tech sur laquelle la France a tout intérêt à miser. Je passe un petit message au pouvoir public, on peut aller encore plus vite, encore plus loin.
Et il faut quoi pour ça? Parce que quitte à passer le message, donnez-nous les solutions.
Et ben, par exemple, il y a un plan France 2030 qui a été annoncé récemment avec beaucoup, beaucoup d'argent sur la table, notamment pas mal d'argent pour les industries créatives et culturelles, 600 millions d'euros sur la table, presque 1 milliard sur la formation, etc.
Donc, qu'est-ce que vous dites, il faut que ce soit bien dépensé.
Bah juste le jeu vidéo, en 2010, c'était 3000 emplois en France. Aujourd'hui, c'est 20 000. Il s'est passé entre-temps juste 11 ans. Donc, on me cite un secteur qui a fait x6 ou x7 en termes d'emplois sur le territoire français. Hein. Je ne parle pas à l'étranger, je parle ici, à Montpellier, à Bordeaux, à Lyon. À Bordeaux, vous avez Asobo Studio qui fait Fly Simulator, que tout le monde a au moins entreaperçu. C'est ce jeu fantastique, 20 ans après, qui a réhabilité la simulation de vol. Vous pouvez faire un Paris-New York. Bah, ça, c'est des Français qui l'ont fait à Bordeaux. Vous avez cité les lapins crétins.
On va plus souvent jouer aux jeux vidéo que prendre un avion.
Les lapins crétins, c'est né de Ubisoft Montpellier. C'est né à Montpellier, donc c'est pas parisien. À Lyon, vous avez des grands studios. Ah, donc voilà, on a tout pour réussir dans le jeu vidéo.
On a tout pour réussir. Est-ce que ça signifie que dans ce secteur du jeu vidéo, là aussi, on manque de main-d'œuvre, hein? Est-ce que vous avez aussi, vous peinez à recruter?
Ouais, c'est vrai. Les studios qui sont en France sont en manque de développeurs, en manque de voilà, aussi beaucoup de... Il y a une grosse possibilité dans le jeu vidéo de faire venir aussi des jeunes filles dans la tech. Il faut plus de filles qui codent et plus de filles dans le jeu vidéo. Donc il y a une énorme filière qui peut employer beaucoup plus de monde, qui peut croître dans les années qui viennent. On a une locomotive qui est Ubisoft en France, qui est incroyable. Hein. Je rappelle, Ubisoft, c'est 20 000 salariés dans le monde. Je pense que les gens qui nous écoutent ne voient pas bien la taille parfois d'Ubisoft. C'est 20 000 salariés dans
français.
Le monde.
C'est français.
C'est français, présent au Canada, l'un des plus grands studios. Dans...
Exactement. Et donc entre Paris et Montréal... Bah c'est super parce que c'est toujours le succès d'Ubisoft, mais moi je préférerais que les équipes elles viennent à Paris qu'à Montréal.
Allez, peut-être qu'on va découvrir là dans un instant un autre futur grand succès avec le pitch du jour. Nicolas Vignol, vous restez avec nous, vous allez l'écouter attentivement et donner votre avis. On y va ?
On y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour, grand spécialiste du secteur aujourd'hui, hein, Nicolas Vignol, qui est le directeur général du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Et je suis sûr que Nathalie Carré est une gameuse assurée. Et on va vérifier tout cela avec ses précieux conseils dans un instant. C'est notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et aujourd'hui, une entreprise qui est née il y a un peu plus d'un an. Bonjour Maxime Granger.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous êtes le cofondateur de l'entreprise Gros Chevaux. Gros Chevaux a édité un jeu. Ce jeu s'appelle Unspotable. C'est un jeu qui réinvente le jeu du cache-cache. C'est une entreprise que vous avez montée avec deux autres amis, des amis d'enfance. Vous venez de Rennes. C'est un jeu qui se joue avec les mains. Alors vous allez tout nous raconter, nous on n'a pas tout compris. C'est parti pour votre pitch, on vous laisse une minute.
Alors Unspotable, c'est un jeu qu'on a fait, qui est sorti il y a un an, qu'on a fait avec deux amis. C'est effectivement une espèce de cache-cache réinventé, c'est un peu un Où est Charlie un petit peu plus élaboré, où en fait ça se joue de 2 à 4 joueurs, chaque joueur contrôle un petit personnage dans un décor, et dans ce décor il y a aussi une foule de personnages qui est contrôlée par l'ordinateur. Et là où ça se complique un petit peu, c'est que tous les personnages sont exactement identiques. Donc la manière de se reconnaître, ça va être juste les déplacements. Donc à partir de là, le but du jeu, ça va être dans un premier temps d'essayer de se trouver en bougeant, mais en restant très discret, parce que le but, c'est d'aller s'approcher discrètement de ses adversaires et de leur asséner un coup de poing.
Voilà. Une sorte de Où est Charlie vidéo, c'est beaucoup plus clair. Merci voilà. À vous pour le pitch.
Moi je donne le prix. Alors ouais. On m'a dit que c'était 10 euros sur PC, 13 euros sur console, c'est ça l'idée ?
C'est ça à peu près.
Bon, et ben voilà, bravo en tout cas pour ce pitch qui nous a donné bien envie. Moi ce que je trouvais fou quand on a préparé cette émission avec Elisabeth, vous connaissiez rien aux jeux vidéo ?
Bah, on connaissait parce qu'on avait joué.
Oui, mais en tout cas, vous ne saviez pas en fabriquer un. C'est...
Pas vraiment. En fait, moi, je travaillais dans l'animation 3D. Donc, c'est quand même une.
D'accord, vous aviez quand même quelques
proche.
Bases.
C'est un univers.
Ouais, quelques bases. Et mes deux amis, eux, ils étaient développeurs web. Donc, il y a une idée de code, mais après, ça s'arrête là.
Mais en tout cas, vous jouiez avec eux quand vous étiez plus jeune.
Oui,
hein. C'est pour
fait.
Ça que vous avez eu envie aussi de lancer cette entreprise. Bonjour, Nathalie Carré.
Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Maxime. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Nathalie, vous jouez aux jeux vidéo, vous ?
Alors, juste de temps en temps avec mon fils Maxime, d'ailleurs.
Ah, bah c'est drôle,
mais
ça.
Sinon, je suis...
Mais alors, allez, vous jouez à quoi avec Maxime ?
Ben, les trucs, on joue ensemble, là, les petits bonhommes, comment ils s'appellent, les petits
Super
robots
Super Mario,
là,
quoi.
Nicolas
voilà,
Vignol.
Super Mario.
Vous êtes fait partie de ces gens qui se sont remis à jouer pendant le confinement ?
Non, en fait, moi, j'ai 47 ans. Petite, je jouais sur la petite tablette, là, avec les,
bah,
les
47
trucs,
ans, vous aviez Atari, ah. Hein, il y avait les premières consoles. Hein.
Mais oui.
Vous pouviez jouer au tennis. Moi, je jouais au tennis sur Atari où il y avait une barre de
moi
chaque
aussi.
Côté.
Moi ah oui, c'est ça, oui, exact. Il y avait une barre.
Bah alors,
ah oui.
Et l'écran,
bah non, vous
c'est
êtes
vrai.
Pas si vieille que ça.
L'écran
attention,
était vert hein. Et noir.
Voilà.
Et ça faisait des bruits. On réveillait toute la maison. Bon, enfin, arrêtons de parler de nous. Quelles sont les
oui,
forces et
alors,
les faiblesses
les
de... Unspotable, allez-y Nathalie, on vous écoute.
Eh ben, en fait, alors sur PC, sur téléphone, sur console, en fait le marché du jeu vidéo, c'est une croissance à 2 chiffres. On est 71% à jouer, donc même s'il y a beaucoup d'acteurs, il y a encore de la place pour tout le monde. Et puis votre jeu, par son design, il semble en fait très adapté aux jeux en famille, avec parents-enfants qui se challengent, ce qui est aujourd'hui très apprécié. Et puis Emmanuel l'a dit, le prix, hein, 10 euros pour le PC, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Alors, pas de point amélioré parce que je ne suis pas une grande joueuse. En revanche, j'ai 4 suggestions. En fait, je ne joue pas beaucoup en tout cas, mais je donne ma carte bleue pour télécharger des jeux. Donc, du coup, je jette quand même un œil. Hein. Donc, pour rassurer les parents sans décourager les ados, mettez peut-être plus en avant le côté il faut se fondre dans la foule, observer, être attentif, avant le côté donner un coup de poing. Ouais, et oui. Ça doit probablement plaire aux ados, mais sûrement moins aux parents. De la même façon, vous dites facile à apprendre, difficile à maîtriser. Ça veut dire que votre jeu développe des compétences d'observation, de rapidité de prise des décisions, etc. Ça pourrait être intéressant de le mettre en avant, ces capacités, parce que ça peut convaincre des parents d'acheter ce jeu pour jouer avec leurs enfants. Ça fait un côté fun et utile. Puis, il y a bientôt Noël et on préfère toujours offrir une carte cadeau, par exemple, plutôt que de donner sa carte bleue pour faire le téléchargement. Peut-être qu'on pourrait payer, ça génère un code et offrir ce code à nos ados pour qu'ils puissent ensuite télécharger le jeu, j'en sais rien. Et puis le dernier point, peut-être ajouter une mise en garde sur le fait que ce n'est qu'un jeu, qu'il n'est pas question de faire la même chose dans les cours de récré réels, puisque vous avez une des étapes qui se passe dans une cour de récré. Ça serait quand même dommage que votre jeu soit connu parce qu'il générerait des bagarres dans les cours de récré, comme c'est le cas pour certaines séries malheureusement ou autres jeux vidéo.
Ah, c'est intéressant ce que nous vous dit Nathalie Carré, Maxime Granger. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
J'espère que ça ne va pas générer des bagarres dans les cours de récré, effectivement. Après, c'est un concept, je pense, qui est compliqué à mettre en place dans une cour de récré, vu que c'est facile de différencier ses potes.
À la récréation.
Mais effectivement, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'elle a dit. On s'est aperçu, c'était pas forcément notre but au début, mais on s'est aperçu qu'effectivement, de jouer en famille, c'est un truc qui est... beaucoup marché avec ce jeu, surtout parce qu'en plus il est sorti pendant le Covid et pour le moment il est jouable uniquement en local, même si on est en train de développer le mode en ligne. Du coup les gens étaient en famille et tout, et effectivement il y a plein de parents qui ont joué avec leurs enfants. C'était super intéressant d'avoir leurs commentaires.
Nicolas Vignol, vous êtes le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le syndicat des jeux vidéo, vous en pensez quoi?
On parlait de la variété de la scène française du jeu vidéo. On a une bonne illustration là. Quelqu'un qui vient d'un autre univers que le jeu vidéo à la base, mais qui a cette compétence de développeur et aussi de maîtrise des arts graphiques. On a une super école, les Gobelins, pour ne pas les citer par exemple. Il y a des talents qui sont chassés par DreamWorks, par toutes les compagnies. Pourquoi elles n'iraient pas alimenter aussi la scène française du jeu vidéo? Et là, on a un jeu indé, petite structure, qui sort un jeu super malin, bien positionné. Génial, je leur souhaite
vous
bonne chance.
Vous validez à fond.
Pardon ?
Vous validez.
Ah, je valide à fond.
Et Maxime, ce qui nous a beaucoup impressionné avec Emmanuel, c'est que vous avez tout fait tout seul.
Et vous bossez encore à côté, c'est ça ?
On bosse à côté de temps en temps. Là, pour le moment, mes deux amis bossent et moi, je continue à faire des petits visuels et tout pour le jeu.
Et vous dites, notre force, c'est d'être indépendant. C'est important pour vous de le rester ?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'est vraiment demandé. On s'est posé beaucoup de questions de toute façon pendant la création du jeu. On s'est fait contacter par des petits éditeurs. Et effectivement, on avait peur en fait, qu'ils nous volent un petit peu notre projet. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait gagner finalement en contrepartie. Et on s'est dit, autant rester vraiment complètement maître de notre jeu. Et je pense que c'est un truc...
auquel vous tenez.
Ouais, auquel on tient vraiment.
Ça s'appelle Unspotable et c'est l'entreprise Gros Chevaux qui a édité ce nouveau jeu. Merci à vous Maxime Granger d'être venu nous le présenter dans
Merci
la France Bouge, dans les trophées de l'avenir de la France Bouge.
Merci à vous Nathalie Carré, on vous retrouve dès demain si vous voulez venir présenter votre entreprise. C'est simple, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats. En route pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge.
Allez Nicolas Vignol, souhaitez fin de votre émission. Vous restez avec nous encore quelques minutes ?
Oui, bien sûr.
On continue.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ça passe chaque jour trop vite, cette France bouge. Déjà dernière partie de votre émission, toujours avec Nicolas Vignol, qui est le directeur général du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et on parle des jeux vidéo et du fait que ça cartonne.
Et la France bouge met en avant ces entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations, comme vous Arnaud Sourisseau. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de One Man Support. C'est un réseau de plus de 2000 consultants et managers indépendants. C'est pour ça que vous êtes dans la France bouge. Ils sont indépendants. C'est une entreprise qui existe depuis 8 ans. Et si vous êtes avec nous dans la France bouge, c'est parce que vous n'êtes pas une entreprise classique. Vos consultants sont donc indépendants. Ils ont fait le choix de ne pas avoir de patron. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, exactement. C'est des consultants qui sont en général passés par des cabinets de conseil traditionnels ou des managers qui sont passés par des entreprises traditionnelles et qui, à un moment de leur vie professionnelle, ont fait ce choix de se mettre à leur compte pour avoir plus de liberté, gérer aussi eux-mêmes l'argent, les honoraires qu'ils peuvent gagner en tant qu'indépendants et être leur propre patron, travailler à distance où ils le souhaitent choisir leurs clients, choisir leurs collaborateurs quand ils sont également.
Comment on pourrait dire, vous, c'est quoi votre job? Vous êtes une sorte d'apporteur d'affaires, vous les accompagnez sur les missions, vous les formez, mais c'est eux leurs propres patrons.
Exactement, ils sont leurs propres patrons et nous, on leur apporte des missions. Voilà, donc on joue ce rôle commercial pour eux parce que certains sont d'excellents consultants, d'excellents managers, mais n'ont pas forcément envie de s'occuper du commercial ou n'ont pas ce talent-là. Et puis on leur apporte aussi, au-delà des missions, tout un tas de services qui peuvent répondre justement à leur problématique d'indépendants.
Nicolas Vignol, vous êtes le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Beaucoup d'indépendants, beaucoup de petits studios comme ça en France, c'est aussi un gros boulot d'essayer de faire... monter tout le monde en même temps et d'aller dans le même sens.
Oui, exactement. Et puis le confinement, on en a parlé d'un point de vue, les Français se sont rués sur le jeu vidéo, c'est vrai. Mais il y a aussi le côté producteur, studio, etc. Dans une économie très, très liée au dématérialisé. Mais en fait, pour produire des jeux vidéo, on est vraiment dans le monde réel. Donc il y a eu des grosses difficultés aussi pour maintenir les productions. Ça, on en a assez peu parlé.
C'était un accélérateur d'idées ou ça a un peu bloqué la créativité, ce Covid?
C'est pas si évident, en fait, de s'adapter parce que, en fait, vous avez dans les studios de développement, pour faire très court, des très gros ordinateurs, très puissants, très, très fiables, etc. Vous avez tout un matériel et donc pour passer en télétravail, c'est compliqué pour des petits studios. Et puis, vous l'avez dit, il faut fidéliser les équipes, il ne faut pas qu'ils partent. Donc, dans cette période-là, il y a tout un rôle de garder l'entreprise vivante. Mais ouais, on est passé beaucoup en mode télétravail dans le jeu vidéo, mais ça supposait des grosses adaptations. Je sais qu'Ubisoft, par exemple, a bousculé son organisation alors que c'est un très grand groupe. Bravo à eux. Et dans le jeu vidéo aussi, on a dû s'adapter.
Et là, ça continue puisqu'on est en pleine cinquième vague. Et donc là aussi, ça continue. Vous continuez à faire du télétravail, vous continuez à vous adapter.
Beaucoup de télétravail.
En tout cas, on a passé un excellent moment avec vous, Nicolas Vignol. Je rappelle que vous êtes le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, autrement dit, du syndicat des jeux vidéo. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge.
Merci
Emmanuel,
beaucoup.
Nous, on se retrouve demain.
Et on
mardi.
Change complètement d'univers parce qu'on va s'intéresser à tout ce secteur de la fourrure qui est en train de se réinventer à l'aune maintenant de la fausse fourrure et de tous ces produits synthétiques qui permettent quand même d'offrir des produits à tous ceux qui aiment ce genre de vêtements notamment. Donc on sera avec Ecopel qui est très très innovant en la matière.
Eh bien on va découvrir tout cela demain dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.